Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Inter.
C'est en 1963 que la jeune Annie Ernaux choisit d'avorter en ayant la société contre elle. À l'époque, une femme qui a recours à cette pratique est hors la loi. Elle doit mener un combat pour trouver ce qu'on appelle alors une faiseuse d'ange. En l'an 2000, l'écrivaine écrit le récit de cette année-là dans l'événement. Elle exprime la solitude profonde qu'une femme traverse à cette époque, les risques qu'elle prend, le combat qu'elle doit mener. La comédienne Marianne Bassler joue ce texte dirigé par Jean-Philippe Puy-Martin au Théâtre de l'Atelier à Paris. Bonjour Marianne Bassler.
Bonjour.
Nous parlerons du livre d'Annie Ernaux et donc de votre rôle. Et vous allez vous entretenir avec un autre écrivain, Patrick Chamoiseau, l'auteur de Texaco Goncourt en 1992. On l'appellera tout à l'heure en Martinique. J'évoquerai aussi Annie Ernaux et son rapport à la photographie avec une nouvelle expo de la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Il va être question de la disparition de Jacqueline Duhem, elle qui voyait la vie en couleur et qui illustrait si bien les recueils des poètes.
France Inter, le grand atelier, Vincent Josse.
Elle s'exprimait un petit peu comme Arletty, avec une gouaille et un sourire éminemment sympathique. Elle avait surtout un coup de crayon qui la fit remarquer des poètes, des penseurs. Elle illustra beaucoup de recueils et de livres. Éluard, Prévert, Druon, Gilles Deleuze qui lui fit dessiner l'oiseau philosophie au seuil. Jacqueline Duhem meurt à 96 ans alors qu'elle dessinait et peignait encore très récemment. Enfant déjà, Jacqueline Duhem a le dessin comme ami. Peut-être pour échapper à la tristesse, sa mère l'envoie toute petite en pension. Durant la guerre, Jacqueline est vachère et puis la paix revenue, elle entre à l'usine comme bobineuse. Le hasard l'amène à rencontrer Paul Éluard dont elle devient la jeune maîtresse. Elle a 20 ans et lui 50, scandale. Un peu plus tard, elle illustrera d'Éluard Grindel. Elle devient l'assistante de Matisse durant 2 ans. Le peintre lui présente Prévert, qui se prend d'amitié pour elle. Hélène Lazareff l'embauche au journal Elle, et la voilà reporter, reporter au pinceau. Elle dessine l'actualité, le voyage en France de Jackie Kennedy, le voyage du pape Paul VI en Israël, celui de De Gaulle en Amérique du Sud. Sous ses feutres, ou ses pinceaux, naissent aussi bien des enfants que des fleurs, des étoiles, des oiseaux. Écoutez-la chez elle, près de Bastille, c'était en 2013. Les images naissent une fois que vous connaissez extrêmement bien le texte.
Absolument.
C'est-à-dire que des images se dégagent.
Oui. Je vois une image quand on me dit un truc, je le vois déjà en image. J'ai été comme ça toujours.
Est-ce que vous voyez cette image en couleur ou pas ?
Ah oui. Alors ça, c'était une grosse discussion avec Paul, justement.
Paul Éluard.
Oui.
C'était quoi cette discussion ? Racontez-nous.
Ben, il me dit comment, est-ce que tu rêves en couleur? Est-ce que tu vois en couleur? Ben, je dis oui, moi, je peux pas faire autrement. Je vois même des fois la couleur avant. Avant même l'idée du dessin, c'est une couleur pour moi. Un mot, un poème, une histoire. Et même quand on parle avec des gens, c'est la même chose. Il y a des fois, il se crée une couleur. Ça fait partie de la vie, ça. Quand on aime les couleurs, on vit en couleurs.
De Jacqueline Duhem, lisez vraiment Ma vie en crobard chez Gallimard. De son écriture manuscrite accompagnée de dessins, elle raconte le parcours d'une passionnée des couleurs, de la poésie et de l'amitié aussi. Le récit original d'une imagière, comme elle aimait à se définir. Sur France Inter, dans le grand atelier de la comédienne Marianne Bassler, Olivia Ruiz chante Le sel.
Coupe mes jambes quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la table, que mes heures se délient. apparaissent pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Il ne reste que la torpeur quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment.
Olivia Ruiz, Le Sel, dans le grand atelier de Marianne Bassler sur France
le
Inter.
Le grand atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Marianne Bassler, vous êtes en direct un dimanche après-midi sur Inter parce que vous ne jouez pas en matinée le dimanche.
Non, non, je joue les mardis et les mercredis en fait, jusqu'au 27 mars.
Au Théâtre de l'Atelier à 19h, l'événement d'Annie Ernaux, texte dans lequel l'écrivaine prix Nobel de littérature évoque une année inoubliable de son parcours personnel et intime. 1963, je le disais, l'année de son avortement à l'époque où avorter constitue un crime. Mais j'aimerais d'abord évoquer la semaine que nous venons de vivre et rappeler qu'elle est historique. Outre la journée des droits des femmes avant-hier, la liberté de recourir à l'IVG est protégée désormais par la Constitution, on écoute Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale.
Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnelle, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72.
Le Congrès a voté, le ministre de la Justice a apposé ensuite le sceau de la République sur la loi inscrivant la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Alors, je pose la question non pas à la comédienne que j'ai en face de moi et qui joue Annie Ernaux, mais à la femme qui est là, Marianne Bassler. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment des résultats de ce vote?
C'est un moment historique, c'est un signal très très fort envoyé au monde dans une époque où l'extrême droite gagne tous les recoins du monde. Enfin, les États-Unis sont menacés,
oui.
L'Europe. Donc c'est important, c'est un grand pas en avant, porté beaucoup par la jeunesse. Comme on l'a beaucoup dit, les enfants des sénateurs ont dit à leurs parents, on vous parle plus si vous votez pas pour.
Vous pensez que ça vient entre autres de la pression des enfants et de la jeune génération?
J'ai envie d'y croire.
Ah oui, c'est
j'ai
beau,
envie
ça.
De le croire. Et je vois bien que le public d'Annie Ernaux est un public jeune, que c'est une rockstar pour eux. J'ai remarqué ça depuis quelques années, que dès que je parle d'Annie Ernaux à quelqu'un de jeune, même très jeune, leurs yeux brillent.
Mais vous savez qu'il y a une exposition, et j'en parlerai tout à l'heure, d'Annie Ernaux, de ses textes, et puis un regard avec des photos de la collection de la MEP à la Maison Européenne de la Photo. Il y avait dimanche dernier, il y a une semaine, 1800 personnes le dimanche, alors que d'habitude il y a 300 personnes. Vous vous rendez compte?
Je sais, oui, je
Rockstar,
sais.
C'est pour ça, ça lui
que
va
j'attends
bien.
Un petit peu. Ouais. Oui, elle est adorée par les jeunes, elle les prend par la main, elle leur donne du courage, elle leur donne envie de se battre pour tous ces droits si fragiles.
Vous pensez que c'est sa littérature qui attire la jeunesse ou c'est le coup de projecteur qui a été mis sur elle et sur son œuvre à l'occasion du Nobel ?
Je pense que le coup de projecteur a été mis sur son œuvre parce qu'elle l'a bien voulu. J'ai le souvenir, notamment pour l'autre fille, qu'elle avait du mal à franchir le pas de la littérature au théâtre. Mmh. Je pense qu'à un moment donné, elle-même a franchi un pas et que voilà, les gens ont besoin d'elle. La jeunesse a besoin de cette parole sincère, forte, courageuse. Et je ne pense pas que c'est le coup de projecteur. Bien sûr, ça va dans les deux sens. Mais je pense qu'aussi, elle était prête.
Elle nous écoute, Annie Ernaux.
J'espère.
Elle écoute le grand atelier. On en est très, très fiers dans l'équipe. Alors, je le disais, deux soirs par semaine, vous êtes Annie Ernaux qui, des années après son avortement, c'est en l'an 2000, raconte son année 63. Elle a 22-23 ans, elle est étudiante, elle tombe enceinte et elle vit le parcours d'une combattante pour avorter dans l'illégalité. Je vous propose de l'écouter, Annie Ernaux, en train d'expliquer ce livre. C'était en mars 2000 sur France Inter.
C'était un crime, c'était une expédition, c'était une quête terrible, c'est-à-dire celle des moyens pour avorter, pour suivre en fait le désir qu'une femme pouvait avoir de ne pas avoir d'enfant. Et c'est cette expérience-là que je n'ai jamais oubliée, mais que je traite très longtemps après, non plus sous le coup de l'horreur et de l'indicible. Parce qu'au fond, ça n'a pas été l'horreur, c'était la nécessité.
Mais vous dites, à l'intérieur de moi, j'étais une délinquante.
Oui, parce que j'étais hors la loi, bien entendu. Mais la loi, on n'en parlait pas, s'il faut dire. Et c'est qu'on ne parlait même pas de loi. Elle était partout. Elle était inscrite dans même les propos des gens. Elle était dans la façon des médecins de refuser d'entendre quoi que ce soit, de vous renvoyer. Même, comme je l'écris dans le livre, on ne supposait même pas à l'époque qu'il n'y ait plus cette loi-là, qu'il y en ait une autre.
Ce texte, je le disais, Marianne Basler, vous le portez devant un public qui le découvre ou le redécouvre après l'avoir lu. C'est autre chose d'ailleurs que de l'entendre et de le voir incarné quand on est spectateur. Vous parleriez comment de votre manière de dire ce texte, de la mise en scène que vous avez faite avec le regard de Jean-Philippe Puymartin? Il a fallu penser à la manière de rendre ce texte, de le transmettre oralement et scéniquement.
J'ai commencé par une lecture publique. J'avais besoin de ressentir mon rapport aux gens et c'était très émouvant après à quel point les gens ont eu envie de parler, de dialoguer. Et c'est vraiment ce dialogue qui m'a donné envie de passer à la scène. Ça a été très progressif. Je me suis mis des étapes pour découvrir où j'allais aller. Je n'ai pas eu d'emblée une idée précise de ce que j'allais faire. Et c'est un peu le hasard, les rencontres avec différents publics dans des librairies qui font que je suis arrivée à cette forme-là, en fait. Il y avait un jour une table, j'avais imaginé un cube, je me suis assise sur la table, j'ai trouvé une table chez moi, il se trouve que cette table appartenait à mon arrière-grand-père médecin et qu'elle a dû connaître beaucoup d'avortements et beaucoup d'accouchements.
C'était important d'avoir des signes, peut-être.
Je ne sais pas, oui, les signes, j'y crois aux signes, mais en tout cas, c'est par hasard, mais je crois peut-être pas au hasard que cette table-là s'est retrouvée sur la scène du théâtre de l'Atelier. Et puis un jour, il y a une chaise et je me suis assise sur la chaise. Il y a des choses qui ont pris leur sens petit à petit, mais je n'ai pas une idée. Je voulais de la simplicité comme pour l'autre fille.
Oui, que vous avez aussi incarné sur scène.
Mais
un autre
fille,
texte d'Annie Ernaux.
La grande différence, c'est que je convoquais cette sœur disparue comme Annie Ernaux la convoque, dialogue avec elle dans le texte. Tandis qu'ici, c'est un récit d'un événement passé. Et là, j'avais envie de ne pas être seule à le transmettre. J'avais envie d'être avec les autres femmes. Donc j'ai demandé à cette jeune femme, Célestine Asselin, de m'apporter ces sons de voix qui m'accompagnent et qui me donnent le sentiment.
Qu'est-ce qu'on entend, par exemple, je vous laisse nous dire.
Des espèces de chants un peu diffus, des paroles qui n'en sont pas, mais c'est, elles évoquaient pour moi ces milliers de filles qui ont monté un escalier, frappé une porte derrière laquelle il y avait une femme dont elles ne savaient rien. Cette faiseuse d'anges, telle qu'elle, enfin cette phrase est du texte, et j'avais besoin de comme pour l'autre texte que j'ai porté à la scène d'Annie Arnault, l'autre fille, de ne pas être seule, en fait, d'être accompagnée de ces milliers de filles. C'était mon moteur.
On est avec vous et avec les mots d'Annie Arnault que vous faites vraiment formidablement ressortir, avec ce refus d'une interprétation trop réaliste ou avec trop de détails sur scène. Vous ne vous encombrez de rien d'autre.
Mais c'est pas possible, en fait. Parce que, déjà, elle l'écrit 40 ans après l'événement. Moi, j'en suis au même point qu'elle dans ma vie, c'est-à-dire le moment où on se retourne sur le passé, et ce passé s'est un petit peu délivré de l'émotion de l'instant.
Oui, ça le rend encore plus fort, ce texte, parce que elle n'est pas dans l'émotion immédiate.
Non,
le temps
pas
a passé. Et
c'est
et je trouve
violent.
Que son art de la description est justement encore plus violent avec le recul.
Bien sûr.
Une écriture pas chirurgicale, j'aime pas cet adjectif un peu passe-partout, mais quelque chose de très précis et de presque.
L'écriture du réel.
Oui, presque froid, volontairement.
Il y a un souci de se souvenir, de ne pas oublier et de comme elle le dit elle-même, il y a une phrase d'elle qui dit « garder quelque chose du temps, je ne sais plus, enfin, je vais la retrouver, je crois que je l'ai apportée.
» D'autant plus, Marianne Basler, que vous êtes venue avec le texte et que vous voulez bien, je crois, lire un petit extrait.
Oui, je vais vous lire un texte, un extrait du texte.
L'événement d'Annie Arnault, donc, qui se joue par Marianne Basler au Théâtre de l'Atelier le mardi, mercredi. On vous écoute.
Parce que la forme sous laquelle j'ai vécu cette expérience de l'avortement, la clandestinité, relève d'une histoire révolue, ne me semble pas un motif valable pour la laisser enfouie, même si le paradoxe d'une loi juste est presque toujours d'obliger les anciennes victimes à se taire au nom de « c'est fini, tout ça ». Si bien que le même silence qu'avant recouvre ce qui a eu lieu. C'est justement parce qu'aucune interdiction ne pèse plus sur l'avortement que je peux affronter dans sa réalité cet événement inoubliable. J'adore cette phrase parce qu'elle parle de l'avortement, mais elle parle de bien d'autres choses. C'est fini tout ça, impose le silence, notamment concernant, je fais un pont avec Patrick Chamoiseau.
Oui, qui sera notre invité tout à l'heure.
Qui sera notre invité tout à l'heure, concernant les fameuses Indes dont parle Édouard Glissant, le passage de l'Afrique au nouveau, enfin, à ce qui est aujourd'hui les États-Unis, les Amériques. C'est jamais fini, en fait. L'avortement non plus, c'est pas fini. Il y a beaucoup d'avortements dans le monde, partout, peut-être moins en France, mais partout dans le monde, l'avortement clandestin continue à sévir. Comme le disait Simone Veil, Gisèle Halimi et plein d'autres femmes, ça n'est jamais fini. Ces combats-là ne sont pour les droits des femmes, pour les droits des individus. Le combat, que ce soit celui-ci ou celui qui concerne l'œuvre de Patrick Chamoiseau, c'est jamais fini et c'est fini tout ça est un dangereux, enfin silence. Le silence est dangereux.
Elle montre bien, Annie Arnault, le regard que porte la société sur elle, avec le personnage du médecin, entre autres. C'est une jeune femme qui est jugée à travers lui par la société. C'est une jeune femme trop libre. On porte un jugement moral sur sa façon de vivre, alors qu'elle n'a rien fait d'exceptionnel.
Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai résumé quelque part dans le spectacle, parce que j'avais pas trop le choix. Hein. J'ai dû réduire le texte à un dixième environ. Et il y a cette quête, cette errance qui, dans le roman, prend beaucoup de place. Finalement, moi, je ne pouvais pas faire l'impasse sur l'événement proprement dit, c'est-à-dire l'avortement.
Oui.
Mais finalement, il prend pas tant de place que ça dans le texte d'Annie Arnault. Et ce qui occupe certainement une moitié du roman, c'est cette quête, cette recherche d'une sage-femme, d'un médecin. Elle en voit plusieurs qui sont tous plus lâches les uns que les autres. Parfois, c'est même assez drôle parce qu'elle a énormément d'humour.
Oui, elle a beaucoup d'humour.
Certains soirs, il y a des gens qui rient. Quand je parle du personnage de JT, qui voyait comme une opportunité de pouvoir coucher avec elle parce qu'il risquait pas de la mettre enceinte. Mais dans plein de ses romans, regarde Les Lumières mon amour, je l'ai lu deux fois, les gens se tordent de rire alors qu'elle parle quand même de femmes qui font leurs courses dans des magasins. Mais les gens rient énormément.
Elle a aussi de l'humour dans la vie.
Oui, et je trouve que c'est important que ça existe aussi.
Bien sûr.
Dans l'événement, il y a toujours une dérision, une ironie sur tout sur la lâcheté de ces médecins.
Et puis un langage cru, c'est-à-dire elle n'hésite pas à décrire son corps et à ce que c'est que de vivre un avortement en 1963. Et il y a parfois, on sent un petit malaise chez certains visiteurs tellement ces mots sont puissants.
Oui.
Vous devez aussi faire avec ça, vous, la comédienne Marianne Bassler.
Ça n'a pas été simple. Au début, il y a des mots, des phrases que j'avais beaucoup de mal à dire. Je devais m'interrompre, évidemment, les mois aidant. Au bout de quelques lectures, j'y arrive. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments, je comprends que ce soit difficile à recevoir pour le spectateur parce que ça a été difficile pour moi de les appréhender. D'ailleurs, j'ai mis longtemps entre la proposition de Rose Berthet et mon...
Rose Berthet dirige le Théâtre de l'Atelier.
Directrice du Théâtre de l'Atelier et mon passage à l'acceptation aussi, parce que j'étais déjà sur un monologue d'Annie Ernaux, et deux en même temps, c'est très difficile. Et je l'ai fait, puisqu'une semaine avant la première et une semaine après, je jouais l'autre fille, je ne sais plus dans quelle ville. Et c'est compliqué, deux monologues en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps, mais le sujet n'était pas facile à appréhender pour moi, Enfin voilà.
Audrey Diwan a aussi réalisé un film qui s'intitule L'événement, qui est un très très beau film aussi. Elle a été aussi inspirée et portée par les mots d'Annie Ernaux. On écoute un petit extrait justement avec ce fameux médecin qu'on évoquait.
Quel genre de douleur ?
Ça fait comme des crampes.
Enlevez votre culotte s'il vous plaît. Pliez les jambes. Avez-vous un retard de menstruation ? Vous avez déjà eu des rapports ?
Non.
Jamais ?
Jamais.
Vous n'avez pas de fiancé ?
Non.
Vous êtes enceinte, mademoiselle. Je suis désolé.
C'est pas possible.
Je sais ce que ça représente pour vous.
Faites quelque chose.
Vous ne pouvez pas me demander ça. Ni à moi, ni à qui que ce soit. La loi ne fait pas de cadeaux. Toute personne qui vous aiderait risque de finir en prison, et vous avec. Et encore, si vous n'arrivez pas le pire. Tous les mois, on ajoute un nom à la liste de celles qui ont tenté leur chance, et elles meurent dans d'atroces souffrances. Vous ne voulez pas être de celles-là, croyez-moi.
C'est pas juste. Peut-être que ça ne tiendra pas, ça va pas forcément au bout.
Peut-être, oui.
C'est bien aussi, hein, le cinéma à la radio. En fait, c'est complémentaire de la pièce. Vous faites la même démarche.
Oh, c'est pas la même démarche, parce que le cinéma...
Vous donnez à entendre ce texte, en tout cas.
Oui, mais c'est une proposition fermée, hein. On a des visages, on a des scènes. Tandis que je pense que le théâtre ouvre beaucoup l'imaginaire, surtout dans une proposition assez sobre. Mais les deux sont complémentaires, mais beaucoup de... Et puis ils entendent vraiment le texte, oui, d'Annie Ernaux. Tandis que là, c'est des dialogues, je ne suis pas sûre qu'ils soient dans le texte, peut-être des bribes.
Mais en tout cas, on retrouve le même point de vue sobre, et
oui,
voilà, que vous adoptez vous aussi, comme
mais
la réalisatrice.
Mais je pense que le théâtre fait plus travailler l'imaginaire, parce qu'on a des images à soi, quand on voit cette fille monter les escaliers, quand on la voit sur cette table, quand on voit ce qu'elle regarde.
Quand on imagine le sang qu'elle perd.
Oui.
Ça va très loin dans la description.
Ouais.
Y a aussi Claude Chabrol qui a traité de l'avortement au cinéma.
C'est vrai.
Quelques années avant, ça s'appelait Une affaire de femme.
Ouais.
C'est un film remarquable. Et il avait mis, lui, la caméra sur l'avorteuse, celle qu'on appelait la faiseuse d'ange. Vous en parlez, Annie Ernaux écrit sur la faiseuse d'ange. C'était joué, évidemment, par Isabelle Huppert.
Qu'est-ce que tu fais là, dans cette eau jaune ?
C'est de la moutarde.
T'es enceinte ?
Bernard veut pas que je le garde. Il l'envoie travailler en Allemagne. Il dit qu'on ne sait pas combien de temps tout ça va durer.
C'est pas comme ça que tu vas t'en débarrasser de ton môme. Pas vu de la moutarde.
Une avorteuse qui finira guillotinée.
Oui, bien sûr.
Film grandiose et tragique. Est-ce que vous avez besoin, vous, comme comédienne, de vous nourrir et de porter des textes qui parlent de la société, qui ont un côté universel comme ça qui...
Je fais une petite parenthèse. J'ai fait un débat l'autre jour avec quelqu'un qui a fait une thèse sur l'histoire de l'avortement.
Oui.
Et c'est Henri II qui avait promulgué un édit, l'édit d'Henri II, au XVIe siècle, qui condamnait à mort donc les femmes qui avortaient. Mmh. Et au départ, parce que on privait un fœtus qui deviendrait un enfant d'âme, enfin, et parce que la fille mère, l'enfant lui appartenait pas, il appartenait à l'État, et la femme mariée, l'enfant appartenait au mari. Mais pour répondre à votre question, est-ce que j'ai besoin donc
Oui. De textes comme ça qui brûle et qui raconte un moment de la société aujourd'hui ou hier.
Mon engagement de femme passe évidemment par des textes, par des auteurs. C'est ma façon à moi de parce que je m'exprime peu. J'ai pas envie souvent de m'exprimer moi-même sur mes
vos opinions, vos...
Oui, peut-être, mais effectivement, ça va toujours dans le même sens. C'est pas le hasard, si je m'intéresse à quelqu'un comme Annie Ernaux, c'est vrai que le transfuge social, c'est déjà quelque chose qui m'intéresse. Annie Ernaux au début du siècle, mes arrière-grands-parents étaient donc mineurs. Il y avait beaucoup d'hommes politiques de gauche dans ma famille. Même si moi, je ne suis pas politisée, j'ai vécu avec ça. C'était dans mon enfance et même avant mon enfance, ce désir-là, que ce soit en ce qui concerne Annie Ernaux et en ce qui concerne Patrick Chamoiseau. Donc, effectivement, toujours, mon désir de comédienne va vers des textes comme ceux-là que la lecture permet. D'ailleurs, comme j'ai fait beaucoup de lectures publiques en dehors
Et pas mal d'auteurs contemporains, Nancy Houston aussi, entre autres.
Oui.
Vous savez ce qu'on va faire? On va rejoindre dans un instant Patrick Chamoiseau, parce qu'il nous attend de Martinique, et puis on va écouter une chanson de 1963. C'est l'année où Annie Ernaux se fait avorter. Je me suis dit qu'elle pouvait avoir écouté ça cette année-là. C'est un tube de Colette Mani, chanteuse féministe s'il en est, quand elle chantait Mélocotone.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotte, nous, elle est maman. J'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où, j'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente. J'en sais rien, viens donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman, pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens de moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main.
Mélocotone, par Colette Mani sur France Inter. Avec nous en direct de la Martinique, un écrivain qui voue sa vie à cette île, à son île. Je salue Patrick Chamoiseau, bonjour.
Bonjour.
Je ne peux pas m'empêcher de vous demander quel temps il fait sur votre île.
Eh ben, il pleut,
mais il fait quand même 30 degrés, non?
Ah oui, là on est autour de 28-29 degrés.
Voilà, c'est une interview.
Mais c'est une journée pluvieuse. Ça c'est rare parce qu'on est en période de carême. Et donc on a des espèces de pluies de chaleur comme ça qui se déclenchent, qui durent pas longtemps, mais qui viennent augmenter, je dirais, la beauté des paysages, parce que j'aime beaucoup la pluie. J'aime pas trop le soleil, mais j'aime beaucoup la pluie.
Alors que fait Patrick Chamoiseau en Martinique quand il pleut? Il observe, et ensuite il écrit et il raconte.
Ouais, dans la culture antillaise, on a un très vieux rapport à la pluie. Hein. Vous savez, bon, la base de ces cultures des Amériques, c'est la plantation esclavagiste. Et j'ai l'intuition que la pluie arrêtait le travail dans les plantations esclavagistes. Ce qui fait que la pluie a toujours été une sorte de bénédiction pour les esclaves dans les champs. Ce qui fait que je me rappelle que quand j'étais petit, quand il pleuvait, ben on pouvait rester dans le lit, on pouvait lire, on pouvait jouer sans entrer dans les tâches et les besoins habituels, quoi. Donc la pluie, c'est une parenthèse. Et pour moi, en général, quand il pleut, j'aime bien écrire ou lire. Mmh.
On est avec Marianne Bassler sur France Inter. Marianne
Bassler,
vous
avez
qui joue...
de la chance, ouais.
Ah oui, on a de la chance, c'est vrai. C'est quelqu'un qui milite pour la littérature, Marianne Bassler. Elle porte régulièrement en scène des textes d'auteurs, notamment contemporains. Et vous avez dit du Patrick Chamoiseau, Marianne Bassler.
Oui, très très souvent. Patrick s'en souvient peut-être pas, mais à la Villette, avec Greg Germain. J'ai participé au théâtre poème à quelque chose qui s'appelait Chaos Opéra, je crois. J'ai fait quelque chose au Quai Branly avec Édouard Glissant et des textes de Patrick Chamoiseau. J'ai fait sur Radio France Robinson, l'empreinte à Crusoé.
Ah oui, oui.
J'ai fait les textes de contes pour enfants pendant le confinement. Enfin, j'ai pas arrêté, puis j'ai fait Quand les murs tombent, le fameux texte du trio. Je crois que c'était Édouard Glissant, Patrick. Et je crois qu'il y avait Edwy Plenel aussi.
Alors, il faut nous dire, Marianne Bassler, pourquoi vous êtes, je veux dire, amoureuse de la prose de Patrick Chamoiseau. Est-ce que c'est ce qu'il raconte, ce conteur? Ou est-ce que c'est la manière dont il raconte les choses? J'imagine que c'est un tout. Mais est-ce que vous pourriez justement nous dire ça?
C'est une littérature qui m'émeut énormément. Vous dire pourquoi, peut-être que j'ai été martiniquaise dans une autre vie, mais il y a une magie des images, des mots, du langage, un engagement, un pied dans l'enfance. Et puis aussi, c'est vrai qu'Édouard Glissant parlait j'ai connu mieux Patrick Chamoiseau par Édouard Glissant, puisqu'on s'est mis à faire ses lectures collectives. J'avais lu d'Édouard Glissant à Avignon les Indes, que j'ai repris après dans plusieurs endroits. Et c'était une rencontre assez incroyable avec Édouard Glissant, qui parlait beaucoup de ce retour, de cette arrivée de tous ces prisonniers dans les cales de ces bateaux. Et comme je vous ai dit, je ne pourrais pas écrire une thèse sur Patrick Chamoiseau, donc il racontera tout ça mieux que moi. Mais de ce que cette résilience, cette lumière, a créé le peuple martiniquais, la culture créole, ce n'est pas des Africains qui ont perpétué une culture, c'est une nouvelle essence d'être, me semble-t-il, qui est arrivée, compris.
On va demander à Patrick Chamoiseau de reprendre le téléphone au lieu du micro, puisque vous êtes là-bas en Martinique.
Ce qui m'émeut, moi, c'est cette joie, cette lumière, cette force, à Patrick.
Est-ce que c'est ça que vous faites quand vous écrivez, quand vous êtes devant votre papier, Patrick Chamoiseau? Retrouver cette lumière et la force des Martiniquais, leur histoire aussi. Patrick Chamoiseau, est-ce que vous
Patrick
êtes toujours
Chamoiseau
avec nous?
Il semble plus là.
Visiblement, il n'est plus là, mais vous savez ce qu'on peut faire? On va le rappeler. C'est tout simple, Stéphanie Texier est en train de lui repasser un petit coup de fil. Et comme vous êtes venu avec plein de textes...
Je vais lire un texte.
Vous avez envie de lire un texte particulier de Chamoiseau?
Je vais commencer par « La matière de l'absence », où il parle de sa mère décédée.
Ça, c'est un livre qui est apparu en 2016.
Voilà.
Et on le trouve très facilement au Seuil.
Et c'est un texte que j'ai lu récemment à mon papa de 92 ans. Et au début, il a ri. Après, il s'est endormi, je vous avouerai. Ceux qui vivent longtemps se nourrissent de l'absence, me confie la baronne, ma grande sœur, tandis que nous passons l'entrée du cimetière. Leur regard reste attaché à ce qui leur manque, à ce qu'ils ont perdu. Dès lors, submergés par les rides, éclairés de souvenirs devenus enfantins, leurs pupilles reflètent autant de vulnérabilité tendre que d'innocence gourmande. Et ces deuils, ces ruptures et ces manques qui assaillent nos survies ordinaires, qui nous abîment ainsi, semblent, en ce qui les concerne, aller qu'en dérivant de part et d'autre de leur durée, tel l'impressionnant sillage d'une force en chemin. Ils en sont riches comme d'une source impossible que seule leur mémoire magicienne aura pu transformer en substance. Et ce sillage, mon cher, est une célébration. Mais ceux qui vivent longtemps sont aussi grignotés par l'absence. Ils épaississent sans doute dans l'invisible, car leur corps, tout ce que l'on voit d'eux ou qui émane de ce qu'ils sont, s'en va en diminuant. Ils sont en devenir dans quelque chose qui les efface, ce trou noir des pertes, des ruptures et des manques, dont ils ramènent l'étonnant paradoxe et le triomphe ténu de leur durée. Et donc, cher Nigrillon, c'est ainsi qu'elle m'appelle. Ceux qui vivent longtemps se rapprochent d'un mystère.
Marianne Bassler qui lit un extrait de Patrick Chamoiseau, La matière de l'absence. C'est quelqu'un, Chamoiseau, qui est un conteur. Est-ce que le terme vous semble adéquat, Marianne Bassler?
Oui, et puis c'est un terme qui est propre à la culture et à l'origine de la littérature créole. Et l'origine de la culture créole, qui est d'abord une transmission orale de ses contes, de ses improvisations le soir autour du feu, qui a fait naître cette culture, cette littérature dont... dont Chamoiseau est un des grands auteurs.
Vous êtes avec nous, Monsieur Chamoiseau?
Oui, oui, je suis là.
Vous étiez allé vous promener sous la pluie?
Non, j'avais oublié de me mettre, ne pas déranger, puis bon, il y a eu un appel malheureusement.
Je vous en prie, on est toujours dans le grand atelier sur France Inter, on évoquait votre style, votre goût du conte. Comment vous parleriez de ce désir-là d'écrire? Est-ce que, par exemple, vous avez voulu mélanger le créole et le français? Il y a un auteur, un romancier comme Kundera qui dit, mais pas du tout, il a chamoisisé le français. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous?
Ça veut dire qu'on agit toujours, et ça c'est peut-être la définition de l'écrivain, on agit toujours dans la langue que l'on utilise, on agit toujours comme un créateur. C'est-à-dire que l'écrivain habite la langue de manière assez singulière. Et ma singularité, elle est donnée par toute l'histoire des Amériques, hein, cette rencontre de langue, de civilisation, de culture, tous ces mélanges absolument incroyables qui se sont constitués durant les temps de la traite, de la colonisation, des plantations, et puis des nouvelles formes du colonialisme. Donc ça fait un rapport au monde très particulier, mais ça fait aussi un rapport à la langue très, très particulier. Et quand j'ai commencé à écrire, donc, du coup, je me suis retrouvé écartelé entre ma langue maternelle, entre guillemets, qui était la langue créole, langue apparue pendant la période esclavagiste, et la langue française qui m'avait été donnée à l'école. Donc à ce moment-là, il fallait faire ce que Glissant appelait « bâtir son langage ». Donc à partir des langues qui me sont données, j'ai bâti mon langage particulier qui est celui de que Kundera appelle « chamoisisé ».
Oui, c'est joli.
Mais
hein.
La construction du langage dans la langue, c'est véritablement le travail de l'écrivain.
Oui.
Je regardais, on imagine très souvent la question du langage de manière très complexe et très, très compliquée. Je regarde ce que fait Annie Arnaud, la construction, il y a un langage dans la langue, mais ce langage est fait de manière très, très sobre, très, très précise. Très, je dirais, très, très chantante, quoi. Mais ça n'a pas la complexité que l'on peut retrouver dans la littérature latino-américaine. Mais c'est la même attitude créatrice dans la langue. Il n'y a pas d'écrivain sans création dans la langue.
Vous avez le don des portraits que je dirais voluptueux, Patrick Chamoiseau. Vous savez décrire les charpentiers, les affranchis, les servantes, les esclaves, les déshérités, comme on disait au temps de Victor Hugo, et comme on le dit et comme on le voit toujours aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, un Hugo, ça a été un des modèles de Chamoiseau?
Ah oui. Ça, c'est Victor Hugo. J'ai récité la légende des siècles presque par cœur pendant des années. Ça a été véritablement ma rencontre avec la poésie entre Lamartine, Hugo et quelques autres. Mais il me semble que la rhétorique d'Hugo, un peu une rhétorique un peu spectaculaire, m'a beaucoup plu. Et jusqu'à maintenant, tout mon mauvais goût littéraire me vient de ma passion pour Hugo. J'aime bien les rhétoriques un peu affirmées, avec des éclats stratégiques dans le langage qui me paraissent très agréables à vivre et à dire.
Vous avez envoyé hier, et on va malheureusement se quitter là-dessus, après le petit problème technique qu'on a eu, mais on va écouter, vous avez envoyé un texte à Marianne Bassler, elle a envie de lire un tout petit extrait. C'est un texte sur les migrants, Marianne Bassler?
C'est un texte qui est une conversation à propos de Frères migrants, écrit par Patrick Chamoiseau en 2017, en conversation avec Charles Leverstraat.
On vous écoute.
Donc je ne lis pas tout parce que...
Ah non, un petit extrait s'il vous plaît, merci.
Ce qui est amusant, c'est que dans l'événement, il y a un texte dont j'ai fait le teaser, comme on dit, qui dit « Des milliers de filles ont monté un escalier, frappé à une porte derrière laquelle il y avait une femme dont elles ne savaient rien, à qui elles allaient abandonner leur sexe et leur ventre. » Et ce texte-ci commence par « Des milliers de personnes meurent en Méditerranée et en face, nous avons quoi ?» Un imaginaire politique européen, voire mondial, qui accepte cet état de fait et qui, pire, n'est même pas en mesure d'avoir une réaction simplement humaine. On laisse mourir, comme si ceux qui sont en train de mourir n'appartiennent ni à ce monde ni au genre humain. Et pire, on laisse mourir, comme si les opulences régnantes n'ont aucun rapport avec les drames, les guerres, les crimes, les déraillements qui propulsent ces personnes en souffrance. La nuit se trouve là. Quand la décence, la compassion, l'humanité sont invalidées, s'amenuisent ou disparaissent de la conscience internationale.
Merci Marianne Bassler et merci Monsieur Chamoiseau d'avoir été des nôtres sur France Inter. Il est 1 heure moins le quart chez vous, je vous souhaite un bon appétit.
Merci, à très bientôt.
À bientôt.
On écoute Jalen Gonda sur Inter, Illusion. Une des grandes voix de la soul aujourd'hui, Jalen Gonda, Illusions.
France Inter, le grand atelier, Vincent Josse.
Beaucoup d'écrivains ont un rapport intime à l'image. Souvenez-vous de Hervé Guibert, mort en 91, qui prenait des photos quand il ne parvenait plus à écrire ce qu'il avait à dire. Il rêvait même, je le cite, que les photographes se mettent à écrire et que les écrivains prennent des photos, comme si chacune de ces pratiques était une extension de l'autre. En 1993, Annie Ernaux, toujours elle, publie Journal du dehors. Elle habite la banlieue, Cergy-Pontoise, et dans le RER, les hypermarchés, la rue, elle regarde, elle scrute, elle écoute, et son observation quasi photographique se traduit en mots dans son journal. À la Maison européenne de la photo à Paris, Lou Stoppard a eu l'idée d'associer à des extraits de ce journal des photos de la collection de la MEP. Son donc accrochés sur les murs des mots d'Annie Ernaux et des images qui font écho aux remarques de l'écrivaine. Photos en noir et blanc de l'américain Gary Vinogrand, en couleur de Dolores Mara, de Martin Frank, du japonais Hiro, des anonymes dans les rues, une femme avec son enfant dans les bras, le regard dans le vague, des usagers du RER ou du métro. Alors on part se balader avec le directeur du lieu, c'est le britannique Simon Baker, dans cette exposition qui connaît un succès fou, on en parlait tout à l'heure avec Marianne Bersler, et qui porte comme titre « Extérieur, Annie Ernaux et la photographie ». C'est une exposition dans laquelle on lit du texte et on regarde des images.
Oui, effectivement, ça a donné idée de la commissaire, Lou Stoppard, qui a lu attentivement le livre Journal de dehors de Annie Ernaux, dans lequel elle dit tout au début qu'elle veut écrire les photos. Et Lou, elle a dit, si Annie Ernaux peut écrire les photos, est-ce qu'on peut lire les photos ?
Prendre le contre-pied.
Oui, exactement. Et là, les images, ils sont toujours en relation avec quelque chose qui était important pour Annie Ernaux.
La difficulté, c'est qu'il ne faut pas illustrer, mais ajouter quelque chose.
Oui, l'idée de l'illustration, c'était quelque chose à éviter, mais c'est plutôt de mettre side by side, côte à côte, un groupe des images et un texte ou un groupe de textes. Et les textes dans l'exposition, ils sont exposés comme les œuvres d'art. Ils ont éclairé dans la même façon. Ils ont les meilleurs murs. Normalement, tu mets les plus belles photos dans le meilleur mur, mais là, en face de nous, on a les textes d'Annie Ernaux qui prennent la vraie place des œuvres d'art.
On se promène ?
Oui, bien sûr. On fait une balade ernaouienne.
Oui, c'est ça. Alors, par exemple, là, je suis devant une photo de Marie-Paul Nègre. C'est au jardin du Luxembourg, avec un peu de brume. Il y a deux femmes qui se connaissent et une dame au loin qui est indifférente.
Et effectivement, c'est comme une scène d'un film, mais c'est une scène trouvée. Et c'est un peu comme les trouvailles de Annie Ernaux, comme elle regarde les petites scènes de vie quotidienne. Ça nous donne un aperçu, mais elle a aussi dit que c'est en regardant les autres qu'on comprend mieux nous-mêmes.
Oui, au fond, on peut imaginer trois histoires ici.
Bien sûr, oui. Ou si vous êtes Annie Ernaux, plusieurs plus que ça.
Cette salle.
Il y a deux ou trois images qui sont très importantes dans la sélection. Et on est devant une grande, grande...
Une sorte de fresque.
Oui, c'est une polyptyque de plusieurs photos en grandes échelles. Et c'est par Hiro, c'est un photographe qui a photographié le métro à Shinjuku, à Tokyo. Et on n'a pas que les images de Paris, on a aussi les autres villes.
Ah oui, on voyage dans plein de pays.
Oui, parce que en fait, la question du ville, la vie dans une ville, c'est universel. C'est pas que les Parisiens qui ont les problèmes de le matin coincés dans un métro. Là, on voit les gens qui sont vraiment proches des fenêtres du métro.
Ils se pressent contre les vitres du métro.
Oui, et ils sont vraiment coincés ensemble. Et Annie, elle a adoré de regarder les visages des gens et projeter. Elle a dit, par exemple, si j'étais cette femme-là, ma vie, c'est quoi la vie de cette personne que j'ai vue de loin. Et elle projette un peu sur qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle attend, ses désirs, ses enjeux. Et après, c'est vraiment le quotidien qui provoque les réponses ou les textes de Annie Ernaux.
Alors je me retourne pour voir un peu quels sont les textes qui jouxtent cette fresque, ce polyptyque. Par exemple, il y a dans Libération, Jacques Le Goff, historien, « Le métro me dépayse ». Les gens qui le prennent tous les jours seraient-ils dépaysés en se rendant au Collège de France ? On n'a pas l'occasion de le savoir.
je vois un vrai, comment on dit en anglais, a twinkle in her eye. En fait, elle a un super sens
un clin d'œil.
Oui, elle a un super sens d'humour. Et je pense qu'il y a les moments, parce que c'est une écrivaine qui a les sujets hyper sérieux et engagés, mais à côté, vraiment un regard avec un sens d'humour qui est sec, mais toujours pointu, toujours perfect, quoi.
Simon Baker, vous n'avez pas envie de laisser un appareil photo dans les mains d'Annie Ernaux maintenant ?
Je ne sais pas si elle est intéressée par ça, parce qu'elle a beaucoup écrit sur les images. Elle a une collection de ses propres images de son enfance. Elle a aussi travaillé avec un photographe pour faire un livre. Mais effectivement, je pense que le plaisir pour Annie Ernaux, c'est plutôt de regarder et de repenser les histoires.
Voilà, extérieur, Annie Ernaux et la photographie, c'était la Maison européenne de la photographie, rue de Fourcy, métro Saint-Paul, à Paris, jusqu'au 26 mai. Vous aurez sans doute l'occasion d'y aller quand
je vais
vous aurez
qu'il y ait moins de monde,
un petit peu moins de travail.
D'avoir fini la pièce.
Et puis vous vivez entre la Belgique et la France, alors Manne Bassler, parce que vous êtes franco-belge, née d'un père suisse.
Oui, 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 je vais beaucoup voir en Belgique en ce moment. Entre deux représentations.
Ce serait bien aussi d'entendre celle qui a permis aux femmes de ne plus être hors la loi quand elles avortent, Simone Veil, qui, ministre, on le sait tous, a convaincu les parlementaires de voter pour que l'avortement soit dépénalisé en 1974, loi effective en 1975. Alors voici Simone Veil en 1992.
Je crois qu'on a oublié aujourd'hui, les jeunes ne savent pas, et tant mieux, ce que c'était. C'était vraiment un problème très, très, très angoissant. Pour beaucoup de femmes, il y avait chaque année environ 300 femmes qui mouraient d'avortement, beaucoup qui restaient stériles pour la vie ou très handicapées. Et au-delà de ça, c'était un problème quotidien pour beaucoup. Et je crois que ça a été une victoire des femmes, même pour celles qui n'étaient pas favorables au projet, qui restent non favorables. Je suis frappée aujourd'hui quand je rencontre des femmes d'une certaine génération et qui me disent d'ailleurs tout de suite, vous savez, j'ai pas été d'accord sur tout ce que vous avez fait, mais vous avez fait des choses pour les femmes.
Est-ce que vous pensez à elles, non pas quand vous êtes en train de jouer Marianne Bassler, mais quand vous avez préparé, par exemple, l'interprétation de ce texte d'Annie Ernaux, l'événement ?
Je pense à elles et je pense à toutes les femmes de cette époque qui se sont battues et grâce auxquelles on a davantage de droits aujourd'hui. Je pense à ma mère qui n'avait pas droit à un chéquier quand j'étais toute petite. Et effectivement, un sacré bout de chemin a été parcouru de cette fameuse femme gelée dont parle Annie Ernaux, dont les droits étaient si limités. Donc on a beaucoup avancé et grâce aussi à des femmes comme Annie Ernaux, comme des femmes, bien sûr, comme Simone Veil, évidemment.
Je reviens sur cette importance, me semble-t-il, pour vous, d'abord d'être en phase entre votre vie privée, familiale et ce que vous portez sur scène. Et d'abord et avant tout, d'ailleurs, hein, il y a vraiment quelque chose de très homogène.
Oui, bien sûr, et c'est par des textes comme ça que j'arrive à être en phase avec moi-même, et je dois beaucoup à Annie Ernaux de m'avoir accompagnée,
oui.
En fait,
oui, puisque c'est la deuxième fois.
Elle, c'est la deuxième fois, ça fait 7 ans que je la côtoie, et c'est un grand bonheur, un beau cadeau.
Merci beaucoup, il faut absolument voir, j'insiste, si vous le pouvez, Marianne Bassler, au Théâtre de l'Atelier à Paris dans l'événement, et puis lire ou relire l'événement, il est paru en folio. Merci beaucoup.
Merci.
Marianne Bassler.
Merci.
Stéphanie Texier a réalisé cette émission. Karen D, Laurie Negrevergne m'ont aidé à la préparer. Thierry Dupin a programmé la musique. Il y avait à la technique Paola Collin.